Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bien, reprenons. Alors, après avoir apporté au cours des premières leçons quelques précisions concernant la figuration en général, je voudrais commencer aujourd'hui, et pour plusieurs séances, une analyse des caractéristiques, disons, figuratives de l'ontologie totémique. Je rappellerai d'abord ce que j'entends par totémisme, que j'ai déjà défini à la fois dans des ouvrages, un ouvrage antérieur, mais aussi dans des leçons ici. L'identification totémique, elle est fondée sur le partage au sein d'une classe d'existants regroupant des humains et diverses sortes de non-humains d'un ensemble précisément défini de propriétés physiques et morales que l'entité éponyme est réputée incarner de façon exemplaire. Dans les sociétés aborigènes d'Australie, où l'ontologie totémique s'exprime de façon particulièrement nette, le noyau de qualité caractérisant la classe totémique est réputé issu d'un prototype, primordial, traditionnellement appelé « être du rêve » dans la littérature ethnographique. Des récits étiologiques racontent en effet que lors de la jeunesse du monde actuel, au temps du rêve donc, des êtres hybrides sont sortis du sol en des lieux, en des sites précisément localisés, et ces êtres ont connu toutes sortes d'aventures au cours de leur pérégrination à la surface de la Terre. Et ces êtres, ils ont disparu tout aussi soudainement qu'ils étaient apparus dans des lieux également bien identifiés. Les actions que ces êtres, que ces prototypes des êtres et des choses ont accomplies, ont eu pour effet de façonner l'environnement physique tel qu'il est actuellement, soit parce qu'ils ont laissé une trace de leur présence dans le paysage, soit parce qu'ils se sont eux-mêmes métamorphosés en un élément du relief, de sorte que la plupart des traits caractéristiques du milieu portent témoignage de ces péripéties. Les rivières, les chaos rocheux, les gisements d'ocre, les collines, des bosquets d'arbres, des points d'eau, des lacs, etc. Avant de disparaître dans les entrailles de la Terre, ces êtres prodigieux ont aussi laissé des dépôts de semences d'individuation qu'on appelle habituellement des âmes-enfants dans la littérature ethnographique sur l'Australie, semences d'individuation qui s'incorporent depuis lors dans tous les humains et dans tous les non-humains composant la classe totémique issue d'un être du rêve en particulier et qui porte le nom de cet être du rêve. De ce fait, les qualités physiques et morales issues du prototype s'actualisent à chaque génération dans des humains, dans des animaux, dans des plantes qui constituent, en dépit de leur apparence très diverse, autant de manifestations identiques du petit noyau de propriétés fondamentales au moyen duquel s'affirme leur identité commune. Ajoutons que ces propriétés partagées par les humains et les non-humains au sein d'une classe totémique sont suffisamment abstraites pour que leur partage par des espèces dont la morphologie est complètement dissemblable n'apparaissent pas, aux yeux des aborigènes du moins, comme irréalistes ou comme contre-intuitifs. Ces propriétés concernent le comportement, vif ou lent par exemple, la forme plate ou arrondie, la couleur claire ou foncée, la texture rugueux ou soyeux, ou encore la consistance dure ou souple, de sorte que n'importe quel existant peut être qualifié par l'une ou l'un ou l'autre de ces attributs sans que l'on s'expose à un démenti de l'expérience. Précisons enfin que les noms d'animaux désignant des totems, et donc les noms des êtres du rêve dont ils sont issus, sont très souvent des épithètes qualifiant ou désignant des qualités assez générales, du type le vigilant, le moelleux, le sautillant, l'attentif, et non à proprement parler des noms d'espèces. Autrement dit, la matrice d'une classe totémique, c'est un noyau de prédicats partagé par des humains et des non-humains, subsumé sous un terme, renvoyant à une propriété distinctive et dérivé d'un prototype ayant engendré ces humains et ces non-humains, et qui assure depuis lors la transmission continue de ces qualités dans des sites où ces noyaux de propriétés, ces noyaux de prédicats existent de façon potentielle avant leur actualisation dans des membres humains et non-humains de la classe totémique. Ça, c'est le modèle général de l'ontologie totémique. Comment figurer une telle ontologie de façon à ce que ces traits caractéristiques soient aisément identifiables? Il faut d'abord donner à voir l'identité profonde qui caractérise les membres humains et les membres non-humains d'une même classe totémique du point de vue, disons, de l'intériorité, de la physicalité, qui sont les deux critères que j'ai retenus pour construire ces chefs d'identification. Identité interne, car humains et non-humains partagent le fait d'être issus d'un même prototype et qu'ils procèdent donc d'une essence commune, localisée dans un site, singularisée par un nom définissant le champ des prédicats qu'ils possèdent en commun. Identité physique aussi, pas identité de forme, on l'a vu, mais identité de qualité physique, car ils sont réputés être faits de la même substance, être organisés selon une structure analogue et posséder, de ce fait, humains et non-humains confondus, le même genre de tempérament et le même genre de disposition à agir. Mais en Australie, du moins, cette identité des composantes humaines et non-humaines d'une classe est rarement donné à voir en figurant directement des humains. La connexion des humains au prototype totémique, le fait qu'ils en soient des actualisations renouvelées génération après génération, est dans une large mesure sous-entendu. Et si les humains sont évoqués en tant que membres d'une classe totémique, c'est pour l'essentiel au moyen de la représentation de l'action instituante de ces prototypes, puisque tout dans le monde, à commencer par la segmentation des êtres et des choses en classes nommées, doit sa naissance et son développement à cette action originaire. Donner à voir la permanence dans le temps des prototypes totémiques, le caractère immuable de leurs traits structuraux, les effets de leurs actes créateurs dans des particularités du paysage ou dans des sites singuliers associés à des classes totémiques, tout cela peut se faire au moyen de trois stratégies figuratives qui sont autant de transformations les unes des autres. La plus évidente peut-être consiste à associer des figurations de prototypes totémiques en train d'accomplir une action instituante avec des figurations de sites à la fois cadres et résultantes de cette action et des figurations d'emblèmes associés aux groupes totémiques issus de ces événements. C'est cette représentation d'un ordre spatio-temporel et classificatoire en train de s'actualiser dans un événement que propose la tradition figurative des Yolngu du nord-est de la terre d'Arnhem que nous allons examiner aujourd'hui. À partir de cette figuration de l'ordre ontologique en cours d'avènement, deux transformations sont possibles. Soit figurer l'ordre totémique au moyen de l'image de ceux qui l'ont engendré, mais en omettant le résultat de leurs actions, soit au contraire, ne figurer que ce résultat en omettant ceux qui en sont la cause. La première formule correspond aux peintures dites en rayon X des peuples de la partie nord-occidentale de la terre d'Arnhem, c'est-à-dire les Yolngu sont à l'est, ceux auxquels je fais référence sont à l'ouest, et notamment les Kunwishku. Tandis que la deuxième formule correspond aux peintures des aborigènes du désert central, notamment les Pintupi et les Walpiri. Ces deux formules, que nous examinerons au cours des leçons prochaines, correspondent ainsi à deux types de simplification logique visant à condenser l'événement donnant naissance à l'ordre totémique. Au lieu de le figurer comme dans le cas Yolngu et avec lui toutes les particularités qu'il engendre, l'on figure l'agent de la génération indépendamment de tout contexte pour bien montrer que l'ordre s'est déployé à partir de son corps dont les subdivisions internes sont clairement représentées. C'est le cas évidemment des peintures dites rayon X. Soit l'on figure les traces de l'agent ordonnateur, et donc le monde qu'il a fait advenir, sans représenter cet agent lui-même, pour bien montrer le vigoureux dynamisme de cet ordre qui se perpétue, identique à lui-même, en l'absence de ceux qui l'ont institué, qui l'ont mis en branle, pourrait-on dire. Dans tous les cas, il faut souligner avec force que les images des aborigènes australiens sont toutes et partout liés aux êtres du rêve, et donc à la source de l'ordre totémique, et aux actions dans lesquelles ces prototypes se sont engagés afin de donner une identité ontologique différenciée aux subdivisions du monde qu'ils incarnent eux-mêmes pour une large part. C'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui avec les Yolngu, dont le régime figuratif correspond à ce que l'on pourrait appeler une pictographie héraldique. Alors, les Yolngu sont connus dans la littérature ethnographique aussi sous le nom de Murnjin. C'est un nom qui est assez célèbre chez les amateurs d'un genre très particulier de technique anthropologique, qui est l'analyse des systèmes de parenté. Ceux d'entre vous qui ont lu les structures élémentaires de la parenté se souviennent que Lévi-Strauss y consacre de nombreuses pages où il montre que le système Murnjin est une transformation du système Carriera, du système Aranda. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous demande simplement de garder ça en mémoire, dans la mesure où cette particularité du système Murnjin que Lévi-Strauss met en évidence dans les structures élémentaires de la parenté de constituer la forme logiquement la plus complexe, mais en même temps celle d'où peut-être logiquement dérivées les formes Carriera et Aranda, possède à mon sens les mêmes caractéristiques en matière de figuration, vis-à-vis non pas des Carriera et des Aranda, mais vis-à-vis des deux autres formes de figuration totémique que j'ai évoquées, celle des Kunwishku et celle du désert central. Donc vous avez ici la terre d'Arnhem. Les Yolngu sont situés donc dans la partie est, ici, tandis que les Kunwishku, dont je parlerai dans une prochaine séance, sont situés ici, à l'ouest, la terre d'Arnhem étant, vous voyez, cette espèce de péninsule, de semi-péninsule, tout à fait au nord de l'Australie. Alors, un mot quand même sur les Yolngu et sur leur organisation sociale, puisque vous comprenez qu'ici, la caractérisation de l'organisation sociale est absolument centrale pour comprendre la nature de des figurations. Les Yolngu forment un ensemble linguistique qui est donc localisé dans le nord-est de la terre d'Arnhem et dont les locuteurs se réfèrent volontiers à eux-mêmes par des termes plus spécifiques qui renvoient à des noms de clans, par exemple, ou à un dialecte. Et de fait, le terme Yolngu renvoie à un groupe de clans qui s'intermarient et dont les membres parlent des dialectes d'un ensemble de langues étroitement apparentées. En ce sens, les clans du pays Yolngu font partie d'un système social et religieux tout à fait sui generis et qui se distingue des autres ensembles de la terre d'Arnhem. Avant de se regrouper pour l'essentiel dans trois agglomérations qui sont, je crois, ici Irkalla, ici sur Echo Island et la troisième, je ne la vois pas, enfin peu importe. Les Yolngu vivaient dispersés en bandes de 30 ou 40 individus sur tout le territoire. La concentration dans les sites d'habitat autour des missions s'est opérée à partir des années 40, mais depuis les années 70, de nombreux individus sont revenus vivre en petits groupes dans ce qu'on appelle en Australie des outstations, qui sont des campements, mais en dur quand même, qui ressemblent sur leur territoire clanique patrilinéaire et qui ressemblent d'une certaine façon assez aux campements d'avant l'époque de la concentration. Une chose très importante, les Yolngu sont divisés en deux moitiés patrilinéaires exogames, les Duwa et, ou peut-être même le terme, n'est pas, le pluriel n'est pas approprié, puisque en fait ces termes désignent une bipartition du monde autant qu'une bipartition des gens. Donc Duwa et Yirija. C'est un système donc classificatoire qui régit l'ensemble du cosmos, et les clans de chacune de ces moitiés sont les maîtres de territoires clairement localisés, lesquels, en cas de disparition d'un clan, vont toujours demeurer au sein de la même moitié. Donc la distinction entre deux moitiés, c'est véritablement dans la mythologie, dans les récits théologiques, dans le système totémique associé à ces récits éthiologiques, ces moitiés ont une autonomie très grande, et c'est très nettement souligné. Morphy, par exemple, qui est l'un des ethnographes auxquels je me réfère, qui a le plus écrit sur la figuration chez les Yolngu, écrit « Rien dans l'univers n'est extérieur à l'une ou l'autre de ces catégories ». C'est Howard Morphy. Auteur de plusieurs livres, et notamment de l'un d'entre eux dont je me suis beaucoup servi, qui s'appelle « Ancestral Connections », qui a été publié en 1991. En particulier, chaque être du rêve est mis en scène dans la mythologie de l'une des moitiés seulement, et en ce sens appartient exclusivement à cette moitié. Donc l'activité transformatrice des êtres du rêve et les effets ontologiques des activités d'un être du rêve s'est déroulé dans le territoire d'une moitié, et leurs traces s'y cantonnent en général. Par exemple, lorsque dans un récit éthiologique, un être du rêve traverse un territoire d'une autre moitié, d'une moitié traverse le territoire d'une autre moitié, il passe sous terre de façon à ne pas laisser de traces dans la partie de l'autre moitié. On a donc cette bipartition qui est très, très importante. chaque clan patrilinéaire est le propriétaire collectif des objets rituels et des savoirs rituels que l'on désigne sous le nom général de Mardayin. C'est une sorte de patrimoine. Qui appartient à chaque clan et qui regroupe aussi des droits sur la terre. À Irkalla, qui est l'un de ces lieux de concentration au bord de la côte, tout en haut à droite, il y a une dizaine de clans par moitié. Mardayin, les Yungu le traduisent par « sacred law ». Ça signifie que c'est un patrimoine instituant et ordonnateur qui est composé donc, de chants, de danses, de peintures, d'objets sacrés, de récits éthiologiques qui se réfèrent tous aux actions des êtres du rêve lorsque les êtres du rêve donnèrent ordre et consistance au monde. Et les droits sur la terre en sont en quelque sorte une émanation dans la mesure où ces droits sur la terre furent donnés aux ancêtres des clans actuels par ces mêmes êtres du rêve qui voyagèrent sur les territoires en question. Et toutefois, bien qu'un clan possède un ensemble unique de Mardayin, un patrimoine unique d'objets rituels, de chants, de danses, etc., un seul Mardayin est rarement la propriété d'un seul clan, en ce sens que les êtres du rêve, en voyageant, ont traversé le territoire de plusieurs clans, mais d'une même moitié. En outre, certains patrilignages à l'intérieur du clan ont un rapport privilégié avec tel ou tel segment du Mardayin. Et ce sur quoi il faut insister ici, c'est qu'il y a une hiérarchie assez grande dans les savoirs concernant tous ces aspects idéels, disons, de la vie et de l'identité du clan, et notamment concernant les motifs des images. La possession collective de motifs peints doit être, par exemple, distinguée du droit de les reproduire, de les commenter ou d'en faire usage. On peut même, c'est le cas des jeunes gens, par exemple, avoir le droit de faire des peintures, mais n'avoir pas le droit de les commenter. Et ces droits sont conférés par les anciens du clan. En outre, les femmes sont exclues de maintes cérémonies, sont donc exclues des types de savoir concernant les Mardayin, notamment concernant les péripéties de l'action créatrice des êtres du rêve et concernant, évidemment, la façon dont ces péripéties sont rendues en images et commentées. Et dans le passé, par exemple, se servir des peintures d'un clan sans sa permission pouvait aboutir à la mort du coupable. Donc les images ne sont pas neutres. Les droits de peindre sont distribués par les hommes du clan sur la base de trois principes, la génération, c'est-à-dire que le degré de complexité dans la connaissance de la signification des images se distribue par génération, la primogéniture et l'affiliation à des sous-groupes à l'intérieur du clan. Les hommes peuvent aussi avoir accès aux droits du clan de la mère et de la mère de la mère, notamment pour des images, mais il est rare qu'ils exercent. Donc, de fait, ce sont les anciens et les leaders qui décident qui peut peindre quoi. Donc, c'est un savoir restreint, c'est un savoir qui est en partie ésotérique, y compris, et même peut-être surtout pour l'ethnologue, et tout ce que l'on peut en dire, ça n'est finalement qu'un fragment. Mais je pense que tout le monde est dans la même situation, y compris d'ailleurs, évidemment, les Yungu. Les images Yungu en général sont appelées des Mardayin Minichi. Mardayin, donc ça fait référence à ce patrimoine sacré, si vous voulez, de chaque clan mis Miniji fait référence à la fois à la couleur et au tracé des motifs, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient faits par les humains dans des images créées donc de main d'homme, en tant que ces motifs relèvent d'une action intentionnelle. Par exemple, le motif qui apparaît sur une carapace de tortue est considéré comme lui appartenant en propre suite à une action intentionnelle narrée dans un récit étiologique, de la même façon qu'un motif de peinture corporelle est considéré comme appartenant à un clan et comme le représentant, ou qu'un certain type de motif, que l'on verra un peu plus tard, est considéré aussi comme spécifique à un clan, ne pouvant être utilisé dans les peintures sur écorce que par ce clan. La plupart des motifs existants dans le monde sont ainsi le résultat d'un événement survenu à un être du rêve, un moment ou à un autre de ses pérégrinations terrestres. Et c'est pourquoi, comme l'écrit Howard Murphy, je le cite, « la distinction entre des motifs naturels et des motifs culturels n'a guère de pertinence. » Quant au terme Mardaïn, on vient de le voir, il fait référence, je le rappelle, à cet ensemble de chants, de danses, de peintures corporelles, d'objets rituels qui est associé aux êtres du rêve, c'est-à-dire aux actions qu'ils ont menées à la surface de la Terre. De sorte que l'expression Mardaïn Minichi dénote les motifs des êtres du rêve, les motifs qu'ils ont créés ou qu'ils ont institués par leurs actions, en tant qu'ils évoquent les actes instituants des êtres du rêve, mais aussi en tant qu'ils expriment l'essence de ces êtres et qui permettent, en les exécutant, ces motifs, de se relier à eux, de se relier aux êtres du rêve. Ils sont parmi les principales manifestations de ces êtres du rêve qui peuvent être reproduits par les humains. C'est-à-dire qu'on peut manipuler ces motifs, on peut les reproduire, et à travers eux, on peut rendre présents les êtres du rêve dans des supports très divers, dans des dessins sur le sable, dans des motifs de jeux de ficelles, dans des peintures corporelles, dans des sculptures, dans des peintures sur écorce, etc. Donc il y a au moins trois sens dans lesquels on peut dire que les images Yongu sont des motifs des êtres du rêve. D'abord, ils sont apparus sur le corps de l'être du rêve qu'ils représentent et ils ont été désignés par lui comme faisant partie du patrimoine iconologique du groupe avec lequel ils sont associés, donc du patriclan avec lequel ils sont associés. Ensuite, ils sont l'expression iconique des événements qui ont engendré les motifs et dont ceux-ci sont la trace. Enfin, ils contiennent le pouvoir des êtres du rêve et peuvent à ce titre recevoir un usage rituel. On peut donc dire que les motifs spécifiques, appropriés par chaque clan, liés à des êtres du rêve particuliers, sont des sortes d'attributs délégués des êtres du rêve dont ils incorporent de façon visible, de façon tangible, les propriétés et donc les propriétés spécifiques au groupe totémique qui en détient l'usage. Et de fait, les images font beaucoup plus que représenter au sens iconique. Elles sont dotées d'une agence propre, émanant de l'être du rêve qu'elles figurent, notamment lorsqu'elles sont finement hachurées, on va voir tout à l'heure des figurations, des images Yongu, lorsqu'elles sont finement hachurées, de blanc en particulier, afin de produire un effet de scintillement qui signale que l'agence de l'être du rêve s'est incorporée dans l'image. Comme l'écrit Murphy, et je crois que c'est une excellente synthèse, je le cite, « une peinture Yongu, c'est du comportement ancestral emmagasiné. » Ancestral faisant ici référence, évidemment, aux êtres du rêve. Alors, il faut souligner que l'art Yongu n'a de sens que dans un contexte cérémoniel. C'est un peu paradoxal, puisque c'est à partir des années 60 et 70, surtout, ce sont des peintures qui ont connu une assez grande diffusion, peintures sur écorce, notamment dans le marché international de l'art. Et sans dire, je ne voudrais pas rentrer dans le... Il y aurait matière à faire plusieurs leçons sur cette question, mais je ne sais pas l'objet principal qui m'intéresse aujourd'hui. Sans dire que les images produites pour le marché international sont complètement différentes des images à utilisation interne, il y a néanmoins certains traits qui caractérisent cette différence, notamment le fait que les gens qui les regardent n'ont pas véritablement conscience, selon les Yongu, de la signification des images. Or, ce qui compte, c'est le savoir qui est incorporé dans les images. Or, on trouve maintenant une situation un peu embarrassante dans laquelle les connaisseurs, achetant ces tableaux, ces peintures sur écorce, demandent à avoir des informations pour mieux apprécier les images et donc demandent à dévoiler les significations qui sont attachées à ces tableaux et qui font tout leur pouvoir. Donc, on est entré, suite à cela, un peu dans une situation de crise qui rend beaucoup moins facile la dissociation entre un savoir ésotérique lié à la transmission de certains pouvoirs dans le patriclan d'un côté, par les images, bien sûr, et de l'autre, un marché international de l'art aborigène. Alors, donc, l'art Yongu n'a de sens que dans un contexte cérémoniel. C'est la « sacred law », comme disent les Yongu en anglais, qui devient manifeste dans une performance rituelle. Ce qu'il faut souligner, c'est que si le patrimoine mardaïn, c'est-à-dire les peintures, les chants, les danses rituelles, constitue un ensemble de qualités et de moyens d'action sur le monde qui est tout à fait spécifique au patriclan, la signification de ce patrimoine est aussi indépendante de leur usage dans une cérémonie particulière. Ce sont des paquets de sacred law, si l'on peut dire, qui sont associés à des sites nommés dans le territoire d'un clan, de sorte que les composantes du paquet racontent l'histoire de la création de ce site, chaque peinture en détaillant un aspect, mais bien que chaque paquet existe indépendamment, comme fondation de l'existence d'un clan, il doit être performed, on dirait en anglais, hein, il doit être exécuté dans un rituel pour être connu, pour être transmis, pour être enseigné. Donc, à chaque occasion rituelle, c'est une petite partie seulement du paquet qui est actualisée. Et pour connaître la totalité du paquet, j'y reviendrai longuement à la fin de la leçon, il faut être présent à un grand nombre de cérémonies. Et pour connaître la totalité de tous les paquets, eh bien, c'est impossible. Donc, les peintures sont plus que des représentations des êtres du rêve. Les motifs eux-mêmes contiennent le pouvoir de cet être. Et ce pouvoir, il peut être dangereux, c'est pourquoi l'apprentissage ne peut se faire que de façon très progressive. Donc, les peintures, elles ont trois caractéristiques. Elles sont le foyer d'un pouvoir totémique, qui a un nom, Yongu, on dit Mar. Le Mar des peintures existe indépendamment de leur signification, c'est-à-dire qu'il exerce une agence indépendamment de la connaissance que l'on peut avoir de la signification de ces images. Les peintures sont aussi le support et l'actualisation des droits d'individus dans un patriclan d'utiliser ces peintures en tant que membre d'un clan. C'est la manifestation la plus évidente. Et enfin, les peintures sont de la substance ou du comportement totémique réactualisé bien sûr dans les cérémonies, parce que les motifs étaient peints sur le corps de l'ancêtre ou étaient produits par ses actions et qu'ils se réfèrent donc aux événements qui se sont déroulés en un site et ont résulté en une transformation du paysage. Avant de rentrer dans le détail de l'analyse de quelques peintures, je voudrais dire Un mot sur les caractéristiques des figurations. Il y a deux types de figurations pour l'essentiel, des représentations figuratives et des représentations géométriques. Les représentations figuratives, ce sont des figurations iconiques et reconnaissables d'objets qui sont présents dans l'environnement. Et l'iconicité, d'ailleurs, est une dimension valorisée et les anciens, par exemple, critiquent les plus jeunes lorsqu'ils font une peinture en disant que cette peinture n'est pas ressemblante. Ceci dit, il y a un certain degré de stéréotypie dans la figuration, notamment des animaux, qui aide à les reconnaître. Par exemple, l'opossum est toujours figuré avec la queue enroulée. C'est assez normal, puisque l'opossum a presque toujours la queue enroulée, mais c'est un signe distinctif. Donc si on fait un opossum avec une queue qui n'est pas enroulée, ça veut dire que ça ne sera pas ressemblant. Mais évidemment, ce n'est pas ressemblant parce que ça ne correspond pas à un canon. Le crocodile est toujours représenté avec des lignes transverses sur le dos, par contraste avec le goanna qui n'a qu'une division longitudinale. Le système de représentation géométrique, ce sont donc des formes géométriques simples. Il ne s'agit pas de figuration décorative, il s'agit d'une simplification iconique. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans le désert central. C'est un cercle, par exemple, qui peut représenter soit un trou d'eau, soit un campement, soit des œufs, soit des trous laissés par des vers, soit des noix, soit un feu de camp, etc. Et c'est donc des signes polysémiques qui exigent une clé pour être interprétés, et celle-ci est la plupart du temps très contextuelle, donc limitée à un cercle restreint d'interprétants. Dernière classe de signes géométriques, ce sont les motifs du clan. Chaque clan a des motifs qui sont liés des événements ayant qui se réfèrent à l'être du rêve ou à l'un des êtres du rêve auquel le clan est associé. C'est une sorte de blason qui caractérise les rapports entre les gens, leur territoire, le temps du rêve, etc., qui donc est utilisé aussi pour marquer de façon très nette l'origine clanique d'une peinture. Les blasons ont été créés par les êtres du rêve, ils ont été donnés aux ancêtres des clans actuels et ils sont devenus donc des mardaïnes, faisant partie du patrimoine propre au groupe, même lorsque des clans ont disparu et que d'autres se sont appropriés leur mardaïne. Je ne vais pas rentrer dans le détail des emblèmes claniques. Je vais tout de suite passer à l'iconographie d'un événement particulier pour vous montrer les principes sur lesquels elle est fondée. Les éléments iconiques des peintures Yongu peuvent se rapporter soit des événements mythologiques, soit des événements racontés dans des récits étiologiques concernant le temps du rêve, soit des éléments topographiques, et la plupart du temps, les deux sont mêlés. C'est le cas de cette peinture. L'événement du temps du rêve qui est dépeint ici se réfère au voyage de Guwak. C'est une espèce de coucou. C'est le coucou de Keul. J'en ai, voilà, c'est celui-là. Donc c'est le voyage de Guwak, de deux coucous, puisqu'ils sont tous doublés dans cette affaire, les êtres du rêve. Et le lieu qui est représenté, c'est Djarakpi. C'est un lac d'eau saumâtre entouré de dunes de sable sur la côte du golfe de Carpentarie. Je crois qu'il était figuré voilà, c'est là. Donc c'est un site tout à fait spécifique. Alors, l'événement mythique, c'est quoi? C'est donc le voyage de ce coucou, de ces deux coucous, Guwak, accompagné de deux opossums, de deux émeus et de quelques autres êtres du rêve qui entreprirent un voyage depuis un endroit qui s'appelle Burwan Nidi, un site dans le pays du clan Ritarngu, Et chaque nuit, ils campaient et les gouaks s'installaient. Donc les gouaks, c'est quatre, hein, vous voyez, c'est les deux oiseaux là. Ils s'installaient en haut d'un anacardier. L'anacardier est là, vous voyez. Dont ils mangeaient les fruits. Les opossums grimpaient alors sur l'anacardier, qui est représenté ici par le corps des gouaks. Donc vous voyez les opossums avec la queue ici enroulée, là. Les opossums grimpaient alors sur l'anacardier, tout en filant leur pelage pour en faire des longueurs de cordonnet. Lorsqu'ils en avaient filé une certaine longueur, qui variait dans chaque campement, les gouaks leur disaient d'arrêter de filer, et ce morceau de cordon était donné au clan dans le territoire duquel ils se trouvaient. Les émeus voyageaient avec eux, les émeus, c'est donc les deux figures qui sont au centre, perforant le sol avec leurs pattes pour créer des trous d'eau. Donc ça, c'est la version publique. C'est le commentaire public qu'on peut faire, connu par tous les adultes du clan Mangalili. Et la section suivante de l'interprétation de la peinture est due à un ancien du clan, du nom de Narijin, qui a raconté à son fils, l'auteur de la peinture, la chose suivante. Au cours, donc on rentre déjà dans un niveau plus ésotérique. Au cours de leur voyage, les gouaks et les opossums visitent un lieu appelé Garn-Garn dans le pays du clan Darlwangu. Là, ils parlent à un être du rêve du nom de Barama et lui disent qu'ils cherchent un endroit pour s'établir. Barama leur dit de continuer à marcher vers le sud-est jusqu'à arriver à un pays près de la mer où le sable blanc est brûlant, dit-il, et où la mer est riche en aliments. En arrivant à ce lieu, appelé Jarakpi, ils trouveront un arbre Marawili et ils devront établir leur campement sous cet arbre. C'est donc ce qu'ils firent. Ils trouvèrent l'arbre en question, Marawili étant un nom public pour un arbre être du rêve, ce n'est pas un arbre ordinaire, dont on dit qu'il ressemble dans certains cas à un anacardier, dans d'autres cas à un casuarina. Dans certaines versions, les gouaks terminent leur voyage à Jarakpi, on dit même qu'ils y meurent ou qu'ils disparaissent dans la terre. Dans d'autres, ils le poursuivent vers le nord jusqu'au Cap Stewart, mais c'est là une autre histoire qui concerne un autre clan. Nous nous bornons ici à la version du clan Mangalili. Donc ça, c'est la version qui raconte finalement un événement mythologique, ou en tout cas du passé. La peinture peut aussi être vue comme un itinéraire ou une carte retraçant une route et comme un paysage. Il est dit dans le mythe que lorsque les êtres du rêve arrivèrent à Jarakpi, le paysage était informe, à l'exception de quelques arbres, et que c'est par leurs actions que les êtres du rêve donnèrent au paysage sa configuration présente. Sous cette nouvelle dimension, le tableau, là, donc c'est une peinture sur écorce, peut se lire ainsi. Quand les gouaks, les deux coucous, arrivèrent à Jarakpi, ils s'établirent dans un bosquet d'anacardier. Alors, le bosquet d'anacardier, il est là. Là, ils mangèrent, tandis que les opossums tissaient leur cordon. La première cérémonie Ngara du clan Mangalili fut réalisée par les êtres du rêve après qu'ils eurent préparé tout le cordon du pelage des opossums. Les gouaks, les coucous donc, utilisèrent la distance entre deux groupes d'arbres, celui qui est là et celui qui est là, comme mesure de longueur du cordon qu'ils donnèrent ensuite aux autres clans qui se réunirent à Jarakpi, à savoir les clans qui partagent avec le clan Mangalili, l'être du rêve Gouak, puisque, encore une fois, dans certains récits, on dit qu'il a continué son voyage au-delà de Jalakpi, et qui partage aussi l'être du rêve Cordon d'Opossum. Le nom en yungu, c'est Burkun, pour Cordon d'Opossum. Les morceaux de cordon devinrent des petits ravins au nord du lac. Alors, sur la carte, c'est ça. Voilà le lac, hein. Et ça, c'est les petits ravins qui sont donc le produit de la transformation des cordons d'opossum. Chacun de ces cordons étant associé à un clan. Les êtres du rêve dansèrent ensuite avec les cordons jusqu'à l'arbre Marawili, c'est donc l'arbre qu'on a vu tout à l'heure ici, et débitèrent encore du cordon. Le plus long morceau fut destiné au clan Mangalili et se transforma en un banc de sable qui borde la berge ouest du lac de Jalakpi. Ce qu'on voit ici sur la carte, le banc de sable, il est... On voit encore mieux ici, voilà. Le banc de sable, c'est ce qu'il y a en A indiqué en dessous, hein. C'est ça. C'est un banc de sable qui affleure à la surface de ce lac qui est très peu profond. Ce banc de sable est représenté sur la peinture par le corps du Gouak de droite. C'est ça, le banc de sable, en réalité. Étant entendu que tout ce qui est au milieu, c'est le lac, avec ici le banc de sable affleurant. Une femme, être du rêve, du nom de Nyapilingu, qui vivait déjà avant l'arrivée des autres êtres du rêve, à Jalakpi, dans les arbres de l'autre côté du lac. Là. Et là. En observant les opossums, elle apprit à faire du cordon et fit des allers-retours en déposant du cordon au bord du lac. Ces cordons devinrent les dunes côtières qui bordent la berge est du lac. Donc là. Hein. Pendant ce temps, les émeus perforèrent le lit du lac pour trouver de l'eau fraîche, mais ils ne trouvèrent que de l'eau saumâtre. Donc là, ils s'agitent pour essayer de trouver de l'eau fraîche. De rage, ils jetèrent leurs lances dans la mer, et là où les lances tombèrent, des sources d'eau fraîche surgirent que l'on peut observer à marée basse. Elles sont là, ces sources. La peinture peut donc être lue comme une carte, et c'est d'ailleurs en l'utilisant ainsi que Nalijin, le père du peintre, a expliqué à Howard Murphy les détails d'un voyage qu'il avait fait à Jalakpi peu de temps auparavant. Donc là, c'est le narrateur qui raconte son voyage. « Nous sommes arrivés ici, dit-il, dans la Land Rover. » Ici, c'est en... c'est là. « Nous sommes arrivés ici, dans la Land Rover. » Et nous avons progressé dans les dunes jusqu'à un groupe d'arbres, ici, où nous avons campé pendant deux nuits. Nous sommes ensuite allés à un autre bouquet d'arbres, ici, où nous avons attendu l'arrivée de Bangara. Bangara, c'est la femme du narrateur. J'ai ensuite été à l'arbre Marawili pour prier. Donc ici, il y a toujours un arbre, enfin, toujours un anacardier en l'occurrence. Nous avons ensuite construit nos maisons sous les dunes, à la fin du cordon d'opossum. Donc, si on regarde la carte, sous les dunes, à la fin du cordon d'opossum, c'est ici. Hein. Le cordon d'opossum, c'est ça. Et sur la peinture, c'est représenté par à droite de la tête droite du Gouac. C'est tout ça. C'est là qu'il a construit son emplacement. Et évidemment, la différence d'orientation vient du fait que la carte est orientée au nord, comme toutes les cartes géographiques, alors que la peinture est orientée dans le sens du déplacement. Donc c'est une orientation d'un itinéraire qui vient du nord, alors que la carte, évidemment, fait la partie supérieure qui fait face vers le nord. Ici, la peinture, il faut considérer que le nord est en bas. Donc, la peinture figure à la fois un récit du temps du rêve, la genèse d'un paysage, une carte schématisant des traits topographiques les uns vis-à-vis des autres, et la représentation aussi, enfin, elle sert de support en tout cas, la représentation d'un itinéraire personnel, le tout attestant évidemment d'un lien intime et profond entre un groupe de filiation, un lieu et une genèse ontologique. Alors, examinons maintenant deux autres peintures qui ont été faites par le père de ce peintre, Banapana étant le père, et donc c'est le père qui s'appelle Narijin. Celle-ci et celle-ci, hein, deux autres peintures. Dans la première peinture, l'arbre Marawili est représenté par un ranga, c'est-à-dire par un objet sacré propre au clan. C'est ça. D'où pendent, c'est comme ça qu'on voit que c'est un arbre quand même, des racèmes de noix. Dans la figure suivante, l'arbre est figuré par des lignes horizontales sous le cou des gouacs. C'est ça, l'arbre, en fait. Enfin, on a les têtes des gouacs, des coucous, et puis là, ça, c'est l'arbre. Le corps des gouacs, dans les deux cas, figure le cordon de fourrure d'opossum. Les affourchements au pied du cordon, ici, représentent les pieds et les ailes des gouacs. Ils représentent aussi les bouts de cordon d'opossum qui ont été distribués aux autres clans et qui sont maintenant visibles comme des petits ravins, comme on l'a vu tout à l'heure sur la carte, à l'ouest du lac. Le ranga arbre de la figure 10-5 représente le lac, donc c'est ça, qui est figuré dans la peinture de Banapana, celle qu'on avait vue auparavant, comme toute la partie centrale où figurent les émeus. Le motif de clan dans la peinture des deux gouacs, il signifie. Alors, la peinture de. Le motif de clan ici, il faut que je le retrouve. Non, c'est. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est des motifs qui sont propres au clan Mangalili. Les motifs de clan signifient l'eau du lac, le hachurage blanc signifiant l'eau fraîche, et le hachurage rouge, ici, malheureusement on n'a pas la couleur, le lit à sec. Les figures représentant les gouacs et les bouts de cordon d'opossum sont aussi une représentation des objets sacrés ranga figurant le gouac. Alors c'est quoi ces objets sacrés ? Eh bien, il s'agit de pièces de bois longilignes dont une extrémité est sculptée en forme de gouac, hein, la tête du coucou. Le corps de la sculpture représente l'arbre Mara Willy, avec le gouac perché au sommet, et les opossums sont figurés, hein, on les voit avec la queue enroulée toujours, en train de grimper. Mais le corps de la sculpture représente aussi le gouac en train de répartir le cordon d'opossums en divers endroits, de même que les dunes et les bancs de sable qui sont des transformations de ce cordon. La croix qu'on voit ici, la croix du Ranga, elle indique l'endroit où le gouac a demandé à l'opossum de s'arrêter de tisser, car elle avait tissé une longueur suffisante pour le clan. Elle représente donc chacun des clans connectés au cordon d'opossum. La croix, elle est aussi liée, donc des deux côtés, au cordon d'opossum, mais d'une autre façon. En effet, elle figure la toile d'une araignée que l'opossum a observée en train de tisser dans la cime d'un anacardier et qui lui a donné l'idée de filer son pelage. Et la forme de la navette utilisée par les femmes pour filer, pour tisser plutôt du cordon, est basée sur la forme de l'araignée et le ranga de communication, donc l'objet sacré par le moyen duquel on invite à des cérémonies dans le clan Mangalili, et à la forme d'une navette. Enfin, la croix signifie aussi une sorte de baudrier que les femmes portent sur la poitrine, tel qu'en portait Nyapilingu, l'être du rêve féminin qui vivait auparavant au bord du lac, avant l'arrivée des autres êtres du rêve, et qui a filé du cordon, et qui s'est ensuite transformé dans les cordons de dunes du littoral. Quant aux émeus, dans la sculpture du gouac, ils sont là, hein, ils signifient le lit à sec du lac que les émeus ont perforé pour y chercher de l'eau. Les yeux des gouacs signifient l'endroit où les émeus ont jeté leurs lances et qui sont devenus des sources. Bref, les sculptures condensent sous une forme hautement économique toutes les significations attachées aux différentes peintures examinées et contribuent même à éclaircir d'une certaine façon leur structure de composition. Cette structure de composition, elle consiste en trois segments, A, B et C, hein, que j'ai mentionné sur chacune de ces peintures, qui figurent le lac en B, toujours en partie centrale, et les dunes de part et d'autre. Le bloc à gauche du lac représente le côté vers la mer, donc encore une fois tel qu'on l'approche en venant du nord, et non pas tel qu'il est figuré sur une carte orientée, et celui de droite, le côté vers la terre. Il faut ajouter que cette division correspond à la division des cycles de chants rituels Djarakpi entre les chants d'eau douce et les chants d'eau salée. Toutes les peintures de Djarakpi, donc de ce site, et les objets sacrés qui sont associés répondent à un schéma identique organisé en trois blocs, ici signifié par A, B, C, eux-mêmes segmentés, chaque partie de la peinture étant associée à un événement et à un lieu. Donc on peut voir cela sous cette formule condensée. Il s'agit d'une grille ou d'un gabarit d'organisation qui prévoit toutes les insertions possibles. Par exemple, les animaux qui ne sont figurés dans aucun des tableaux qu'on a vus, mais qui sont mentionnés dans les champs de l'eau salée, devront figurer seulement sur le côté mer de la peinture, c'est-à-dire dans le bloc A. Et ceux qui sont mentionnés dans les champs d'eau douce, dans le bloc B. On pourrait dire peut-être que c'est la structure ou la topographie du lieu, donc un lac avec deux cordons de dunes, hein, un banc de sable, etc., qui fournit le schème figuratif. Mais c'est oublier que cette topographie est aussi, pour les Yongu, le produit d'événements que le schème organise. Et d'ailleurs, ce schème respecte les orientations générales, mais ne vise aucunement à l'exactitude topographique ou cartographique. En ce sens, le gabarit structure le paysage autant qu'il est structuré par lui. C'est à la fois un modèle de et un modèle pour, comme le souligne Morphy. Et en ce sens, donc, ce n'est pas un modèle inculqué, c'est un schème qui s'acquiert progressivement par la pratique en observant un paysage, en participant à des rituels, en écoutant des récits étiologiques et surtout en peignant sous la direction des anciens du clan. Et l'existence de schèmes de ce genre pour tous les groupes de peinture associés à des êtres du rêve spécifiques à des sites et à des clans correspond finalement assez bien à l'idée Yongu que tout dans le monde est issu du temps du rêve et que les formes de surface sont toujours engendrées par des formes sous-jacentes. Et finalement, ça correspond à l'idée que les humains ne font qu'entretenir et figurer des subdivisions immuables qui régissent la distribution des êtres et des lieux. Autrement dit, quelques mots de conclusion, parce qu'il est déjà 3 heures, la figuration Yongu combine de façon très originale une pictographie. Il s'agit de raconter une histoire en séquence. Une héraldique, chaque séquence a des codes picturaux, iconiques ou géométriques propres à un clan, et une topographie. Les événements évoqués sont toujours situés en des lieux précis. Mais chacun de ces 3 éléments est traité de façon générative, c'est-à-dire comme un processus de genèse en train de s'accomplir et qui est d'ailleurs revivifié par le contexte rituel au sein duquel les peintures sont employées. En ce sens, cette tradition iconique remplit parfaitement les objectifs figuratifs de l'ontologie totémique en donnant à voir la pérennité des prototypes totémiques et des subdivisions qu'ils instaurent dans les êtres et dans les lieux, chaque peinture représentant en quelque sorte une facette particulière du grand ordre segmenté que personne, pas même les êtres du rêve, n'est en mesure d'actualiser comme un schème général. Car, et c'est ça l'une des particularités du totémisme, chacune de ces classes d'humains et de non-humains est ontologiquement autonome. Chacune constitue une totalité intégrale et autosuffisante puisqu'elle fournit le cadre de l'identification de ces composantes humaines. C'est ainsi que se définissent les clans et plus encore les moitiés chez les Yongu. Donc la totalisation n'est pas possible de l'intérieur. Et c'est ce que montrent fort bien les images. Non seulement celles-ci ne montrent chacune qu'une petite partie des déterminations ou des déterminants ontologiques de chaque classe totémique, mais elles sont en outre, ces images, chacune segmentées en blocs relativement indépendants, du type de ceux dont on voit ici le gabarit, et qui viennent renforcer l'impression de subdivision autonome. De fait, la totalisation ne serait possible qu'en combinant la totalité des images possibles de la totalité des événements du rêve et des sites qui leur sont associés dans les territoires de chaque clan. Mais une telle totalisation supposerait que chaque clan renonce d'une certaine façon au secret et à l'exclusivité concernant les déterminants ontologiques qui lui sont propres. Or, cela paraît difficile, car c'est le secret et l'exclusivité, le secret plus ou moins bien gardé dans les faits, mais essentiel dans son principe, qui assure à chaque clan le caractère distinctif du lien qu'il entretient avec son patrimoine d'images. Voilà, je vais terminer avec ça, et nous allons examiner la semaine prochaine une autre tradition, plus à l'ouest, chez les Kumwishku, qui présente certaines caractéristiques de transformation par rapport à celle-ci, mais avec des images néanmoins assez différentes.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.